Philippe vous présente Alternative, une émission différente et pas pareille, qui vous parle des grands défis de notre monde. Une semaine sur deux, le mercredi à 13h30.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien oui, c'est la rentrée sur Radio Bartas et on attelle de nouveau pour une année que nous espérons agréable pour vos oreilles. Alors pour la première d'alternative, je vais vous parler de plantes et de leurs moyens de défense. Vous verrez que pour les plantes, il n'est pas question de se laisser dévorer sans rien faire. Et on verra que le domaine des plantes n'est pas forcément le domaine des bisounours. Alors les plantes, d'abord ce n'est pas un scoop, elles sont destinées à rester là où elles sont parce que ce sont des plantes. Elles n'ont pas vraiment choisi le milieu où elles poussent et sont donc amenées à lutter contre deux formes de stress. D'abord les stress abiotiques, stress de la sécheresse, dû au cycle des saisons, à la croissance en milieu salé, aux zones polaires, etc. etc. Et le stress biotique qui concerne la lutte contre les herbivores, contre les bactéries, contre les vers et contre les insectes. Et si la guerre chimique est en principe prohibée chez l'homme, je dis bien en principe, ce n'est pas le cas du tout chez les végétaux. Dans ce cas, la plante élabore un tas de pièges redoutables et parfois diaboliquement subtils. Ce sont des substances qui sont stockées dans des poches qui sont libérées quand on les déchire. Ce sont les fameuses huiles essentielles, pour la plupart. De tous les temps, les hommes ont remarqué cela sans percevoir les mécanismes tout à fait. Mais peut-être intuitivement, ils ont pensé que les plantes pouvaient aussi combattre leurs prédateurs à eux. Leurs prédateurs à eux sont les maladies. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Mais enfin, c'est une hypothèse plus que probable, puisque les alcaloïdes, les terpènes, les glucosinolates et les composés phénoliques se retrouvent dans la médecine humaine. Parmi les mécanismes de défense, il faut aussi citer les galles qui isolent les parasites des feuilles, mais aussi les glues, les latex qui coagulent dans la trompe des insectes piqueurs et qui les font mourir de faim. Alors pour ce qui est des alcaloïdes, la colchicine, la lupanine du lupin, la morphine, la tropine, la digitaline qui sont bien connues, et pour ne citer que ceux-là, il y en a énormément, sont des substances très dangereuses pour les prédateurs et aussi pour l'homme parfois. Ils sont responsables d'abord de l'amertume des végétaux qui les rendent décourageants, mais aussi responsables de dommages sur le système nerveux central et responsables de syndromes neurologiques qui causent la mort du bétail. Néanmoins, il faut savoir que ces substances sont très utilisées en médecine, comme les anesthésiants, les anticancéreux, la pervenche est utilisée en chimiothérapie, et les alcaloïdes sont aussi utilisés comme anxiolytiques pour les moins puissants. Le pavot de Californie, qu'on connaît bien. Le deuxième groupe de substances chimiques sont les terpènes et ce qu'on appelle les terpénoïdes, qui sont dérivés des terpènes, provoquent eux la mort des insectes. Le génol du clou de girofle, qui est un puissant neurotoxique pour les phytophages, sont les mangeurs de plantes, hein, je vous le rappelle. Le camphre, le menthol, que vous avez sans doute entendu parler, agissent comme des répulsifs. Une autre substance qui s'appelle l'eucalyptol, qu'on trouve entre autres dans le laurier et la sauge sclarée. Et c'est un agent anti-herbivore qui bloque le développement de certains insectes. L'eucalyptol est un expectorant très connu, utilisé dans les bronchites et les sinusites. Pour les glucosinolates, qu'on trouve dans les choux, dans les moutardes ou dans le radis noir, elles contiennent du soufre et ont un goût amer et très piquant qui repousse les prédateurs. Première ligne de défense. Mais ensuite, les glucosinolates se transforment en analogue du cyanure qui peut conduire à la mort de l'herbivore. À cet égard, la consommation excessive de choux peut provoquer un goitre chez les humains. mais les glucosinolates sont employés comme des antitussifs et des expectorants, donc là aussi utilisés en médecine humaine. Quant aux composés phénoliques, ils comprennent les tanins. Les tanins, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Il y en a beaucoup dans les arbres comme le châtaignier hein, qu'on voit par ici. Les tanins sont complètement indigestes pour les animaux en bloquant les enzymes digestives et en endommageant les mandibules des insectes. Les tanins rendent aussi de grands services. Ils sont entre autres antiseptiques, antioxydants, antiviraux et protecteurs vasculaires. Et maintenant, une petite pause musicale avec Jack Bug.
Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone, run so far from me in the tree, so far. Walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call your name. Will I see you again? Please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rusty guitar.
Vous écoutez Alternative et c'était une musique de Jack Bug, Country Song, pardon pour l'accent. Alors certains végétaux doivent absolument empêcher que leurs prédateurs mangent leurs fruits avant maturité, car alors bon, les végétaux, on le comprend bien, risqueraient de mourir. C'est le cas des tomates, de la pomme de terre et d'autres espèces d'une famille qu'on appelle la famille des solanacées, qui est une famille d'ailleurs assez ambiguë sur le plan de l'innocuité. La tomate, par exemple, est toxique lorsqu'elle est verte. Les parties vertes de la peau de la pomme de terre également. Voilà, c'est pour ça qu'on laisse la pomme de terre dans le noir. Et l'alcacange, vous savez, ce fruit qu'on retrouve souvent en décoration dans les plats des restaurants, l'est également lorsqu'il n'est pas mûr. En fait, c'est tout le contraire du code de la route. Vert, on s'arrête. Rouge, c'est bon. Alors, ces espèces contiennent un alcaloïde qui s'appelle la solanine. Mais pas de panique, hein, je vous rassure tout de suite, il sera toujours possible de consommer des confitures de tomates vertes. Et il faut savoir qu'il faut environ 60 kg de pommes de terre pour s'intoxiquer, le tout étant une question de dose. 50 kg de pommes de terre par jour, je tiens à le préciser. Donc, pas de problème. De nombreuses plantes comestibles renferment également ce qu'on appelle des génotoxiques, des poisons pour les insectes, des poisons pour les larves et pour les herbivores. Par exemple, la laitue contient un latex blanc, d'ailleurs vous le voyez bien quand vous cassez la laitue, il y a du lait qui s'écoule. Ce latex s'appelle la lactucine, qui est un poison violent. Mais là encore, pas de panique, il faut en manger beaucoup. En thérapeutique, il faut savoir que la lactucine favorise les sécrétions biliaires et est antipaludéenne, c'est-à-dire qu'elle combat le paludisme. Toutefois, il est quand même bon de manger tous ces légumes, car ces génotoxiques stimulent les défenses cellulaires et les rendent ainsi plus résistantes aux mutagènes. Donc, baisse de risque des cancers. Donc vous voyez, le 5 fruits et légumes par jour, c'est pas un vain mot. Voilà, donc tout est poison, rien n'est poison, donc finalement tout est une question de dose. Certaines plantes aussi, certains arbres ne tolèrent pas la concurrence. C'est le cas du noyer, où il ne pousse pas grand-chose dessus, tout le monde le sait. En effet, le noyer se protège en sécrétant une substance qui s'appelle la juglone, qui est un inhibiteur de la respiration de certaines plantes. Et la juglone peut s'étendre dans un rayon de 15 à 18 mètres, qui peut faire mourir en 2 jours. Les jardiniers le savent bien, qu'ils s'arrangent pour mettre leur potager toujours à distance respectable d'un noyer. La juglone en médecine humaine est un antiseptique, un antibactérien et un antifongique. De même, dans le genre intolérant, vous avez une petite plante qui s'appelle l'épervière pilosèle, qui produit de l'ombelliférone et des acides de la famille des phénols, aux propriétés antigerminatives, donc pour contrôler les plantes qui s'intéresseraient à la pilosèle de trop près. Elle est intéressante car elle permet de limiter l'usage des herbicides. Donc on utilise la pilosèle dans la culture biologique. C'est très intéressant pour ça. Alors c'est ce qu'on appelle, toutes ces substances, c'est ce qu'on appelle le phénomène de télétoxie, qu'on peut observer aussi chez d'autres espèces. Le chien d'ant, le romarin ou la bruyère agissent exactement comme pour se prémunir des plantes envahissantes. Alors, il faut savoir que toutes ces plantes sont des plantes médicinales et que l'ombelliférone et que les acides organiques de la pilosèle sont des antibactériens en médecine humaine. Là aussi, c'est intéressant. Alors, une petite mention spéciale pour le tabac qui est un champion de l'appel au secours. Alors, je vais vous expliquer comment. Lorsqu'une chenille qui est tolérante à la nicotine vient manger ses feuilles, elle se bourre alors de nicotine et donc est immangeable pour ses prédateurs. Donc c'est une façon pour la chenille de se prémunir contre les insectes, les papillons qui voudraient la manger. Mais la salive de l'insecte, au contact d'un des composants de la plante, produit de la volicine, qui elle-même induit la fabrication par la plante de 2 autres substances, l'acide jasmonique et l'éthylène. Bon, vous suivez jusque-là ? Bon, pas de problème. Alors, l'acide jasmonique déclenche à son tour la synthèse du linalol, une substance qui est utilisée en médecine, qui va attirer le prédateur de la chenille. Et l'éthylène stoppe la production de nicotine. La guêpe peut alors tranquillement déposer une larve dans la chenille qui sera dévorée de l'intérieur sans risque d'intoxication par la nicotine. Démoniaque, non ? Et il faut savoir que bien d'autres espèces végétales comme le chou, le maïs adoptent ce type de défense indirecte. On va maintenant écouter une chanson occitane.
Thank you.
C'était Quand l'Ouben ben de Cap Vat, Coraline Azabal, une chanson occitane donc. Toutes ces substances sont produites par des mécanismes extrêmement compliqués. Alors aujourd'hui, comme j'ai pitié de vos oreilles, je vous épargne tous ces mécanismes extrêmement complexes. Mais sont des outils précieux pour soigner des maladies humaines. Mais bon, pas toutes les maladies, bien sûr, pas les cancers, pas le sida, ni les urgences thérapeutiques. Mais tout ce qui empoisonne le quotidien, les petits bobos qui sont le quotidien du médecin, peut être pris en charge par les substances végétales. Les rhinites, les pharyngites, les mal de dos, les lumbagos, les champignons, enfin tout ce qui n'est pas grave mais embêtant. Alors, je rappelle simplement qu'au départ, de nombreux médicaments sont issus des plantes, mais après, on a synthétisé les molécules, peut-être un peu trop fait confiance à la chimie, et peut-être s'est-on fourvoyé. Alors, je voudrais vous dire un mot encore sur un phénomène curieux qu'on appelle la théorie des signatures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie des signatures? Ça n'a pas de relation directe avec la défense des végétaux, mais ça en a un avec la phytothérapie. C'est une méthode empirique qui était utilisée à la Renaissance, au Moyen-Âge, donc une méthode d'utilisation des plantes médicinales. La théorie voulait que l'aspect des plantes, l'endroit où elles poussent, détermine les actions thérapeutiques. Par exemple, les noix qui ressemblent à un cerveau étaient réputées soigner cet organe. L'analyse moderne prouve l'exactitude de cette idée parce que les noix contiennent des substances qui sont bonnes pour la sphère cérébrale. Une plante aussi qu'on trouve souvent ici, c'est la chélidoine qui contient un suc jaune et comme par analogie avec le jaune de la bile, donc c'était censé soigner le foie. Et effectivement, la chélidoine a une action hépatique. Quant au saule, qui pousse dans les lieux humides, il était censé guérir le rhumatisme. Et ça, c'est bien vrai, parce que le saule, comme vous le savez peut-être, il est à l'origine de l'aspirine, qui soigne les rhumatismes et bien d'autres choses encore. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Alors, pourquoi mépriser de si haut les anciens, au nom de la science, peut-être? Bon, on se le demande, tout simplement. Peut-être qu'on est devenu trop orgueilleux. Alors actuellement, on parle beaucoup des problèmes de soins, du trou de la sécu. Le mois prochain, donc ça, cette édition d'Alternative était en quelque sorte une introduction, je vous expliquerai comment la phytothérapie peut être une alternative à la maîtrise des dépenses de santé. Eh bien voilà, l'émission est terminée. Retrouvons-nous le mois prochain, chers auditeurs et chères auditrices, pour un nouveau numéro d'Alternative, que vous pouvez écouter bien sûr sur le www.radiobartas.net. Salut !